France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Chaque femme qui va chez le gynéco, c'est-à-dire chaque femme, c'est exactement de quoi je parle. Chez le ou la gynéco, on est totalement nu d'abord, jambes écartées, les deux pieds dans les étriers. Peut-il y avoir position plus malaisante? Peut-il y avoir position plus vulnérable? Il n'y a rien de routinier, rien d'anodin dans une consultation gynéco parce que ça parle de l'intime du début jusqu'à la fin. L'intime parce qu'on va vous toucher, vous palper dans ce que votre corps a de plus privé. Intime parce que vous allez devoir parler aussi de ce très privé. Alors certains diront et disent probablement encore, d'ailleurs, bah oui, mais enfin, quand on va chez le gynéco, on doit bien se douter de la partie de notre corps que ça implique. Oui, c'est pas juste un mauvais moment à passer. Et pourtant, moi aussi, j'ai pensé ça pendant des années, comme la plupart des femmes, jusqu'à ce que je tombe sur une gynéco qui prenait le temps, quelques secondes suffisent, de m'expliquer ce qu'elle allait me faire et qui s'excusait même quand le spéculum était trop froid. Une révélation, comme le fut la révélation de notre invitée, gynécologue obstétricienne elle-même, qui a passé toute la première partie de sa carrière à ne pas se poser la question du ressenti de ses patientes et donc de la maltraitance, de la violence gynécologique qu'elle ne voyait pas, puisque le geste technique est irréprochable, puisque le médical est là, puisque même il peut sauver la vie. Eh bien, de quoi on se plaint? Cette gynéco a revu toute sa pratique, de fond en comble, a commencé par faire entrer dans sa pratique ce mot qui a toute son importance, le consentement. Elle a cofondé la clinique des femmes, elle a compris les violences gynécologiques, elle en a fait son combat de médecin. Elle s'est battue aussi contre le paternalisme médical qui est encore trop souvent pignon sur hôpital. Elle s'appelle Amina Yamnian, elle est à vous jusqu'à 20h, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première Aurore, c'est vous, soyez la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Aurore.
Alors moi, le témoignage que je veux faire, je l'ai vécu quand j'avais 15 ans. Donc j'avais jamais montré cette partie-là de mon corps à qui que ce soit. Et je suis tombée sur un vieux gynéco qui, après m'avoir ausculté, m'a gardée sur sa table, donc nue, les jambes écartées. Et là, il s'est appuyé les avant-bras sur mes genoux et il s'est mis à me parler en faisant jouer ses mains devant ma vulve. Et j'étais totalement tétanisée, je me sentais très très vulnérable, et avec le recul je me dis, il aurait quand même pu me demander de m'habiller avant de me raconter sa vie ou ce qu'il m'a dit, je me souviens même pas de tout ce qu'il m'a raconté, mais ça a duré longtemps et il a eu aucune considération pour ma sensibilité, ma pudeur de jeune fille de 15 ans.
Vous y êtes retournée ou pas, ou est-ce que vous immédiatement?
Non, j'ai changé et depuis j'ai toujours pris des femmes relativement jeunes en me disant qu'elles avaient sûrement un peu plus de sensibilité et d'empathie.
En tout cas, Aurore, ça vous a pas empêché d'y retourner, c'est aussi ça que je voulais vous demander, parce que non, mais honnêtement, il y a aussi parfois une mauvaise expérience, une expérience traumatisante au début qui fait qu'on n'y retourne pas alors qu'on est censé.
Non, par contre, j'ai toujours tourné avec un gros a priori. Et pour vous dire, j'ai eu une grossesse gémellaire et je n'ai jamais fait de rééducation périnéale parce que j'en avais vraiment marre qu'on me trafique à cet endroit-là.
Écoutez, merci beaucoup Aurore, merci vraiment. Ça entame notre conversation, Amina Yamnian, merci beaucoup.
Mais moi, ma première consulte gynéco, j'avais aussi 16 ans, la conversation a commencé, j'étais nue devant le gynécologue de ma mère, bien sûr, qui était en nœud pape et blouse. Donc, j'ai pas eu idée de me terroriser, j'ai jamais eu idée de ne pas retourner chez le gynéco, mais effectivement, quand ce genre d'aventure arrive à des femmes qui ont des vulnérabilités sur le sujet ou qui peuvent être en difficulté.
Ou pas seulement, il suffit d'avoir 15 ou 16 ans en fait.
Exactement, et à 15 ou 16 ans, on est extrêmement vulnérable et l'affaire, c'est qu'effectivement, vous avez raison de le souligner. Ici, Aurore, on a de la chance, c'est une femme qui est robuste et qui a de la résilience, mais effectivement, ce que ça peut faire comme effet, c'est que les femmes renoncent aux soins.
Ce que j'imagine dans l'expérience d'Aurore, je pense qu'il ne doit pas en rester beaucoup, mais il doit en rester quand même, des médecins de ce genre-là, c'est qu'il ne l'a pas fait exprès.
Oui.
C'est qu'il ne s'est même pas rendu compte, en fait, parce que pour lui, tout ça est finalement très naturel, très médical, donc sans imaginer ce qui pouvait se passer dans la tête d'Aurore.
Exactement, mais j'explique ça dans mon bouquin, c'est que effectivement, c'est vraiment, mais malgré nous, on est sincèrement en train de faire notre travail, on ne se préoccupe vraiment que de l'organe, le cas échéant de la maladie, et effectivement, on se met à causer, on s'installe entre les cuisses de la patiente, on fait nos petites affaires, comme si on était là dans un terrain conquis, neutre pour la patiente. Or, c'est parfaitement faux.
Le bouquin que je vais le citer, Amina Yamien, ça s'appelle « Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques ». C'est publié chez Flammarion. On va le feuilleter au fil des appels et au fil de cette émission. Mais c'est vrai que vous racontez, et c'est même émouvant, vous racontez que vous avez été, je le disais en introduction, vous avez été maltraitante sans le savoir toute la première partie de votre carrière. Il vous a fallu un électrochoc. Vous n'y êtes pas allée toute seule, d'ailleurs.
Non.
C'est un médecin qui vous a dit, va à Montpellier faire un stage pour
Exactement.
Voir.
C'est un collègue pédopsychiatre qui s'occupe de la santé mentale des femmes enceintes et qui me dit, va faire cette formation à Montpellier. Et en effet, c'est mon déclic. On est en 2003. Donc, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Et où grâce aux femmes et aux témoignages de femmes, qui étaient la motivation de l'enseignement, j'apprends à regarder mon métier au travers du prisme des yeux des femmes.
Ce qui est intéressant, c'est que même vous, à ce moment-là, et à chaque fois que vous essayez de parler de ça avec l'un de vos confrères, ou deux consoeurs d'ailleurs, il y a toujours un moment où il y a un rejet qui dit « Attends, on est là pour soigner, c'est comme ça que ça marche. » Enfin, c'est le protocole, quoi.
Exactement.
Donc, vous êtes très en colère. Même vous êtes
même
en colère au début.
Au début de la formation, je ne peux rien en faire. Je suis complètement imperméable à ces discours en me disant mais qu'est-ce qu'elles ont ces ingrates quoi, c'est pas possible, on se lève la nuit, on a fait des études longues, on leur sauve la vie, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc il m'a fallu vraiment un temps long pour pouvoir digérer, et c'est pour ça que je dis à mes confrères que je comprends la difficulté que représente pour eux la violence de ce débat au sujet des violences gynécologiques et obstétricales, parce que vraiment ils ne se sont en toute bonne foi jamais posé la question, et que là ils sont entre guillemets, au conflit direct avec les usagères qui les interpellent à travers les réseaux sociaux, les journalistes qui font le relais, alors que moi, j'ai fait ça dans un cadre extrêmement contenant, un cadre de formation avec des professionnels qui étaient dédiés à ces questions et que j'ai pu m'appuyer sur eux et que c'est eux qui m'ont empêché de me disloquer. Donc moi, je comprends fort, fort bien pourquoi et comment des collègues à qui on commence à demander des comptes sur le savoir-dire, le savoir-être, se rebiffent, ne comprennent pas, se mettent en colère, et en fait, c'est ça qui est quand même dommageable, c'est que du coup, le climat de défiance ne fait que s'aggraver entre les professionnels et les usagères.
Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors je voulais faire le pendant, j'ai 80 ans. Il y a donc environ une cinquantaine d'années, j'avais un problème gynécologique rare. Et mon gynéco, un jour qu'il m'examinait, a fait rentrer tous ses internes dans la salle, qui m'ont examiné pour se rendre compte du problème. Et maintenant, je reviens à notre époque. J'ai consulté il y a très peu une gynécologue femme et j'ai été profondément étonnée, je le lui ai dit, qui m'a demandé la permission de me toucher. Je voulais faire le pendant entre les... avec 50 ans d'écart.
Et heureusement, merci beaucoup pour votre témoignage, Jacqueline. Ouais. Heureusement que le temps passe. 50 ans, c'est long, Amina.
50 ans, c'est très long, mais ce que raconte Jacqueline, c'est effectivement un résumé très clair de la trajectoire qui est effectivement la nôtre. Moi, j'ai appris à faire un toucher rectal un jour avec 9 autres externes, qui étaient avec moi sur un monsieur. En l'occurrence, d'ailleurs, ce n'était pas une dame. On était chez le gastro-entérologue. Et donc, ce que raconte Jacqueline, effectivement, était monnaie courante. Après, nous, on a considéré que c'était le nec plus ultra que de faire ça en salle d'opération sous anesthésie générale. Mais sans se rendre... Nous, on trouvait que c'était mieux. Sans se rendre compte que ça restait quand même un truc mais complètement dément de faire ça, et que au début des années 2020 effectivement ce type de scandale est mis à jour, mais nous on n'a aucune représentation que ce qu'on est en train de faire est scandaleux. Alors aujourd'hui maintenant, heureusement, il y a de l'intelligence artificielle, il y a des mannequins, il y a tout ce qu'on veut pour apprendre en dehors du champ d'être effectivement tous et nombreux auprès d'une patiente qui aurait une pathologie rare, et c'est vrai qu'il y a manière de faire.
J'ai repéré, vous le dites toujours dans votre livre, vous l'avez dit là tout à l'heure, il n'y a pas de patiente, il y a des usagères. C'est le mot que vous employez, vous. Pourquoi ?
Moi, je trouve que patiente, c'est vraiment n'a jamais si mal porté son nom, quoi. Effectivement, la patiente, elle patiente. Elle est, comme vous avez dit en introduction, à poil, les quatre fers en l'air, les pieds dans les étriers, et elle patiente. Je pense que ce temps est terminé, en fait. La patiente, elle est proactive, elle est éduquée, elle est informée, elle est au courant, elle demande de l'information, elle a besoin d'être interactive, et donc je cherche d'ailleurs un mot de vocabulaire pour remplacer ça. Alors pour l'instant, je dis usagère, mais les femmes qui sont en recherche de soins sont des femmes qui ont une capacité d'être très très proactive, et il faut s'en saisir.
Est-ce que c'est pour ça, Amina Yamian, est-ce que c'est parce que c'est compliqué, parce qu'on a envie de participer à ce qui arrive à notre corps, et quel que soit, que ce soit un accouchement ou autre chose, est-ce que c'est pour ça que vous voyez finalement beaucoup de femmes qui refusent un certain nombre de choses, donc celles qui sont enceintes notamment, refus des forceps, refus des ventouses, refus de la péridurale, non à l'épisiotomie, est-ce que c'est pour ces raisons-là, à votre avis, que certaines arrivent avec un cahier des charges qui dit « moi, c'est comme ça que je veux accoucher, c'est moi qui prends le pouvoir ».
Oui, alors il y a de ça. Avec des femmes qui sont beaucoup alimentées par un discours qui est, à mon avis, à la limite du paternalisme, hein, c'est-à-dire qui consiste à dire, puisque vous avez le savoir d'être enceinte et d'accoucher, c'est donné aux femmes d'accoucher, la nature vous a donné ce pouvoir, et donc prenez-le, comme si on était dans un rapport de force avec le monde médical, et je comprends pourquoi les femmes s'installent dans ce rapport de force, c'est celui qu'on leur a opposé pendant des décennies, comme vient de le rappeler Jacqueline. Et donc, il y a l'illusion de penser que, au motif que nous, les femmes, on a la condition physique pour donner naissance aux enfants, on en aurait le pouvoir et le savoir au sens de l'expérimentation. C'est parfaitement vrai. Au sens des compétences, évidemment, c'est assez faux. Et même, je dirais que c'est délétère, parce que des femmes qui n'arrivent pas donc à accoucher sans forceps, sans césarienne, sans ventouse, se retrouvent dans une très, très grande culpabilité en postpartum, en disant « j'ai pas su faire ». Et j'ai donc été nulle. Et en fait, ça fait aussi le lit de beaucoup de frustration pour ces femmes.
Tu veux dire qu'on est dans une espèce d'entre-deux, en fait, Amina Yamian, en ce moment.
Ouais,
donc, on n'a pas tout à fait perdu confiance dans les gynéco-obstétriciens que vous êtes. En même temps, on veut reprendre le contrôle de notre corps. Et en même temps, on ne sait pas très bien comment on fait. Il va vite, vite falloir trouver la bonne ligne, alors.
Exactement. Mais je pense que les femmes sont remplies de génie. Hein, et donc, nous allons trouver. Nous allons trouver, précisément, parce que le niveau d'éducation est très bon, le niveau d'information est très bon, et que si nous, les médecins, une fois qu'on est formé à ces questions, on accepte de descendre de notre piédestal à notre tour, on peut avoir des discussions extrêmement riches qui définissent un cadre de soins que j'ai requalifié d'alliance thérapeutique. Mmh. C'est le cadre à l'intérieur duquel nous allons travailler ensemble. Il y a des patientes qui sont comme Jacqueline avec des pathologies rares. Si le gynéco dit « est-ce que j'ai deux stagiaires avec moi, c'est très rare de voir ça. Est-ce que vous êtes d'accord que je leur montre ? Parce que c'est l'occasion rêvée pour eux. Mais honnêtement, c'est rarissime qu'une dame dise non. Alors, on n'en fait pas défiler 15, on est d'accord. Mais honnêtement, des dames qui refusent ça, c'est rarissime en fait. Mais simplement, il faut leur expliquer.
Vous avez prononcé cette phrase une fois que les médecins seront formés, Amina Yanyan. On va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Élise d'abord. Bonsoir Élise.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Juste que je voudrais vous dire déjà, c'est que récemment, j'ai eu affaire à un gynécologue qui m'a demandé si j'étais d'accord pour continuer l'examen avant d'introduire le spéculum. Et je me suis dit, mais c'est tellement bienveillant en fait. Donc les choses avancent. Ce que je voulais vous raconter, c'est que moi, j'ai accouché il y a 15 ans. Et je pense que je suis tombée sur une sage-femme pour qui c'était vraiment le mauvais jour. Elle a été humainement vraiment maltraitante. Au point où, au moment d'avoir les quatre fers en l'air, la péridurale était trop forte. Elle me dit, va falloir pousser, madame. Et je lui dis, mais en fait, je sens pas les contractions. Il faut que vous me disiez quand. Elle me répond pas, elle me dit rien. Donc bon, à un moment donné, brave fille, je me mets à pousser. Et puis je lui dis, c'est bon, c'est efficace. Elle me dit, si vous poussez quand je regarde pas, je peux pas vous répondre. Hein. D'accord. Bon, le bébé arrive, c'est la tête est là où il faut pas, et ça fait mal et tout. Ça fait mal, craque, elle coupe sans rien me demander. Alors qu'aujourd'hui, je sais que si j'avais été accompagnée humainement et qu'on m'avait dit, c'est normal, vous n'en faites pas, ça va passer, poussez une dernière fois, la tête est vraiment là où il faut pas. Ça... Non, elle a coupé. À la fin, elle n'était pas contente parce que je saignais. Elle appuie sur mon ventre et là, ma vessie lui a éclaté au visage. Et je me suis dit, mais ça, c'est un retour de bâton, ma fille.
C'est le karma.
Et en fait, je me dis que c'est... J'espère vraiment pour les autres femmes que cette fille, elle n'est pas tous les jours comme ça et que juste, elle était de mauvais poil ce jour-là. Mais peut-être qu'elle était juste de mauvais poil. Mais moi, ça a été mon unique accouchement. Et le lendemain, quand la sage-femme qui préparait l'accouchement est venue me voir, elle m'a demandé comment ça allait. Je lui ai dit, médicalement, tout le monde va bien, mais humainement... c'était terrible. Mmh. Et il y a 15 ans, on ne parlait pas de ça parce que oh, c'est, voilà, oh, c'est bon, c'est les femmes, oh, ça va, tu vas pas. Hein. Ben non, en fait, aujourd'hui, je me dis que j'ai été victime de violences obstétricales et que ben, c'est juste que la société a avancé et que maintenant, on en a plus conscience. Et j'ai donc une fille de 15 ans et en vous entendant, je me disais que je serais très vigilante à sa première consultation et à ce qu'on nous aspavise, ce qu'on a pu entendre dans les premiers témoignages.
Merci beaucoup, Élise. Merci vraiment pour ce témoignage. Et c'est vrai qu'elle a raison, Élise. Amina Yamian, si ça se trouve, elle est formidable, cette femme, et elle était dans un mauvais jour. Mais pardon, enfin, pas le jour où une femme est en train de vivre ce bouleversement dingue qui est un accouchement.
C'est un autre clivage, d'abord. Merci pour ce témoignage. C'est que la ligne de clivage entre les professionnels qui seraient gentils et les professionnels qui seraient méchants, c'est pas la ligne de clivage entre les gynécologues et les sages-femmes. Hein. Simplement, les sages-femmes n'ont pas ni la compétence, ni le droit de faire ni les césariennes, ni les poses de forceps, ni les poses de ventouse. Donc, par définition, c'est toujours nous qui le faisons. Mmh. Donc, c'est vrai, quand on est là, en général, c'est que le truc a déjà pas exactement tourné comme la patiente l'avait revendiqué. Donc, c'est vrai que c'est souvent les gynécos qui viennent mettre leurs grosses pattes, quoi, si je peux dire un peu courtement. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, il y a ça. C'est que pour nous, c'est d'une routine mais absolument banale de donner naissance à un petit, alors qu'en France, chaque femme va faire un ou deux enfants, et que pour elle, c'est quelque chose de très très important. Et comme vous dites, on n'a pas le droit à la baisse de régime, à la genre j'en peux plus, j'en ai marre, je suis mal lunée ou je sais pas quoi.
Vous citez ce chiffre dans votre livre, vous dites que 20% des accouchements par césarienne sont non programmés. Et souvent, qu'il y a une vraie distorsion au fond entre l'accouchement imaginé et l'accouchement réel.
Ah ouais.
Et on va vous faire une césarienne, cric-crac, mais attendez, c'est pas comme ça que je voulais le vivre.
Exactement.
Donc il faut juste me raconter.
En fait, le truc, c'est que je pense que nous, la planète des gynécologues et des sages-femmes, on est issus de la société qui nous porte. On continue de faire des suivis de grossesse avec les femmes comme si enfanter était la nature et puis point barre. Les stats sont robustes, les faits sont têtus, 20% des femmes auront besoin d'une césarienne, 20% des femmes auront besoin de la pose d'un instrument. Qui s'aventure dans un parcours de soins où il y a 40% de risque que ça ne se passe pas comme prévu, sans en être ni prévenu, sans en demander les tenants et les aboutissants. Ça paraît dingue. Et nous, on ne prend même pas l'initiative, finalement, d'être dans une très grande anticipation.
Et vous dites, j'ai retenu aussi ce chiffre-là dans votre livre, un accouchement qui se passe mal, c'est multiplié par 3 le risque de dépression postpartum.
Exactement.
Donc, ce n'est pas anodin
c'est
du
pas
tout.
Ce n'est pas anodin du tout. D'autant plus. Bon, d'abord, la dépression du postpartum, c'est extrêmement grave parce que sa funeste complication est le suicide maternel, et je le rappelle, c'est devenu la première cause de mortalité qui suit la première année de naissance d'un enfant.
Faites pas trop peur aux gens qui nous écoutent.
C'est pas du tout faire peur, c'est dire la réalité, que les femmes qui sont déprimées se disent 1, je suis pas seule, 2, ça existe, 3, il y a des traitements. Et l'enjeu, c'est que effectivement, on doit prodiguer des soins qui sont contenants pour les femmes, parce que sinon, on augmente le risque de dépression pour elles. Et être un nouveau-né élevé par une mère dépressive vous augmente en tant que futur adulte les risques d'être aux prises avec des problèmes psy à votre tour. Donc c'est très grave.
Puisqu'on est là-dessus, avant de retourner au standard, Amina Yamian, est-ce qu'on sait mieux, de toute façon aujourd'hui, la repérer, cette dépression postpartum? Est-ce qu'on sait vraiment être alerté, surtout quand on est le conjoint ou la conjointe? Attention.
Alors, en fait,
on sait que c'est 6 semaines d'abord, c'est pas immédiat, c'est assez contre-intuitif en fait.
Assez contre-intuitif. En fait, ce qui s'abat sur beaucoup de femmes, plus de 80% d'entre elles, c'est ce qu'on appelle le baby blues.
Ouais.
Genre, on est un peu moyen, on a accouché hier, avant-hier, on pleurniche, on n'est pas bien, bon, et puis ça passe. La vraie dépression du postpartum, c'est vraiment des troubles du lien à son petit.
Ouais.
Ça démarre dans les 6 semaines de vie de l'enfant. C'est très, très, très aggravé par le tête-à-tête isolé avec les mères, entre une mère et son petit, le manque de sommeil, et ça s'étend jusque dans la première année de l'enfant. Et effectivement, depuis que on en parle plus, qu'on fait de l'éducation civique sur le sujet, qu'il y a de l'information, mais qui est bien en deçà de ce dont on a besoin. Et vous voyez, vous-même vous dites, Amina, leur faites pas peur.
Non, ouais.
Mais en fait, non. En fait, non, enfanter n'est pas nécessairement le plus beau jour de la vie et n'est pas nécessairement que un heureux événement.
Ouais.
C'est dur de faire un petit.
Il y a ça aussi dans votre livre et qui est assez joli parce qu'en effet, on se dit, bah oui, évidemment, vous redonnez ce dialogue-là, vous dites, ah bah j'ai pris rendez-vous, docteur, parce que je suis enceinte. D'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Et en effet, vous avez tellement raison.
Oui.
D'emblée, on dit, ah bah félicitations. Oula, attendez, si c'est très très mal parti, c'est pas forcément félicitations.
Il y a 250 000 femmes qui vont choisir l'IVG.
Exactement.
Donc, Bien sûr.
Vous avez parlé des sages-femmes à l'instant. Voici une qui est avec nous. Bonsoir, Corinne.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir. Voilà, en fait, j'ai écouté attentivement tout ce qui est venu avant et qui, en fait, résume pas mal ce que j'ai eu l'impression de vivre. Moi, je suis diplômée depuis 30 ans cette année de la région parisienne. Et en fait, j'ai écarquillé un peu les yeux au début de mes études parce que je me disais, ah, d'accord, bon, ok, une grossesse, c'est ça, un accouchement, c'est ça. Parce que, au-delà de l'apprentissage médical qui était juste fabuleux, mais il y avait quand même beaucoup d'actes techniques. Et on les interrogeait pas, ces actes techniques. Hein. Ça allait de... Moi, je venais d'un hôpital où déjà, en 90, il y avait 90% de péridurale. Donc, celles qui n'en voulaient pas, elles n'avaient pas le temps de dire. Hein. Mais c'était les épisiotomies systématiques par deux, trois patrons qui arrivaient en salle de cours avec un morceau de beefsteak sur lequel il avait pendu un poids de 10 kilos. Vous voyez à quel point on était formaté quand on a découvert, hein, 20 ans après, que... on avait fait plus de mal que de bien. C'était les aspirations de bébé systématiques. C'était, bon, moi j'appelle la position d'accouchement patte de poulet écartée, mais j'en parle pendant l'accouchement, les consultations. Ça fait beaucoup rire les femmes quand je leur dis, oui, vous rappelez, hein, ce matin vous n'êtes pas dit que ce soir vous auriez des papates comme ça. Et puis en fait, au bout de quelques temps, c'était plus possible, quoi. Je me suis dit, mais non, mon métier consiste pas à reproduire. Mais il a fallu du temps parce que vous êtes dans des maternités où vous avez des protocoles et vous avez le sentiment que vous allez faire une bêtise. Hein. La situation particulière des sages-femmes, c'est qu'on est profession médicale, mais j'ai souvent coutume de dire par la petite porte. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais on sait aussi qu'on va devoir s'arrêter s'il y a la pathologie, ce qui est parfaitement normal, parce qu'on n'a pas eu l'enseignement complet pour se gérer la pathologie. Mais en fait, ça veut dire aussi qu'on reproduit. On reproduit beaucoup de choses et bon, je suis devenue échographiste et aujourd'hui, vous voyez, il ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser la sonde vaginale si la dame me dit non. Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'urgence vitale au moment où je vais faire une échographie. On trouvera un autre moyen, on trouvera un moment où elle est disponible. Mais c'est pareil pour les positions d'accouchement. Les dames nous disent « Ah, mais vous m'avez posé la question. » Mais oui, je vous demande là si je peux faire un toucher vaginal parce que d'abord, les dernières... études montrent qu'on n'a pas besoin d'examiner une femme toutes les heures, donc on a le temps. Et puis il y a plein de signaux autres que cet examen intime. Mais c'est surtout, on découvre pas la dame, on la laisse pas les jambes comme ça ouvertes. Et puis et ensuite on se retourne, on va se laver les mains et on n'a toujours pas recouverte. Voilà, c'est plein de choses comme ça. C'est vrai qu'au bout de 30 ans, j'ai à la fois plus d'expérience, j'ai à la fois été capable de dire aussi, ou moi d'entendre aussi quand j'avais pas bien travaillé, parce qu'il s'agit pas de donner l'impression que j'étais parfaite, pas du tout, j'ai sans doute fait des choses, mais il faut retourner voir les gens, et comme a dit le médecin que vous avez invité, il faut expliquer aux gens, il faut leur dire, mais être disponible, parce que c'est souvent le dialogue en fait qui a manqué. Souvent on n'osait pas dire, on n'osait pas revenir, moi une fois, hein, c'est tout bête, mais j'ai oublié une compresse, et on va voir la dame, on assume avoir oublié une compresse, on la regarde dans les yeux, on présente ses excuses, et la dame m'a dit, bah écoutez, merci d'être venue, je suis pas ravie de cet oubli.
Mais enlevez-la.
Mais enlevez-la, bien sûr, et puis c'est une chose qu'on ne refera pas, vous voyez, cette excuse, ça c'est sûr.
Et c'est vrai, merci.
Malgré tout, au bout de 30 ans, je suis un peu fatiguée, parce que il faut pas oublier que les patientes, c'est aussi des femmes qui ont subi elles-mêmes des violences, c'est-à-dire que le chiffre montre qu'en théorie, 10% des femmes ont vécu des violences sexuelles, mais c'est un chiffre dont on sait qu'il est largement minimisé, parce qu'on frauderait sans doute les 50% avec des degrés. Donc en fait, c'est-à-dire qu'on a aussi nié pendant toutes ces années que les mêmes femmes à qui on avait fait des gestes systématiques, elles avaient déjà eu des violences. Et c'est pas possible de le mettre de côté, en fait, maintenant.
Merci.
Mais moi, c'est vrai que je suis aussi au bord de plus faire ce métier, parce que je pense que j'ai trop avalé de couleuvres, en fait. C'est compliqué maintenant.
Merci Corinne, en tout cas. Merci vraiment pour votre témoignage. Il y a deux choses très importantes il y a beaucoup de choses importantes dans ce que vous avez dit, mais je voudrais quand même vous lire ce message de Mariam. Il y en a un qui est du même acabit de Béatrice sur WhatsApp. Mariam dit ceci: pour ma part, après deux expériences pas très agréables avec des gynécos pendant ma première grossesse, j'ai décidé de me faire suivre par une sage-femme. Elles sont moins dans la technique, elles sont plus dans la bienveillance et adressent un gynéco en cas de problème. Et finalement, moi, ça me convient parfaitement. C'est ce que dit Mariam. Il y a cette image entre le gynéco. Parfois, effectivement, c'est ce que vous disiez. Oui. Et aussi, les sages-femmes, vous en parlez dans votre livre, Amina Yamian, et c'est important ce qu'a dit Corinne. Ce qu'on ignore très souvent quand on a une femme et dont on sait qu'on va effectivement avoir la toucher, la palper dans ces lieux qui sont si intimes, on ne connaît pas son histoire.
Ouais,
et parfois, c'est son histoire qui crie derrière le fait qu'il y a une vraie réticence et que ça va être très compliqué.
Alors, je rejoins Corinne sur un point. C'est d'ailleurs, les statistiques, c'est pas 10%. Corinne, c'est 18% des femmes, et probablement c'est sous-évalué, même à 18%, je suis parfaitement d'accord, qu'on ne sait jamais ce qu'une femme a subi dans sa vie, et en tout cas comment elle l'a vécu, et donc ça s'impose à nous d'être délicat avec elle. Voilà. On n'a même pas nécessairement besoin de savoir, parce que ne fût-ce que de demander, ça peut être très intrusif pour la femme.
Je me demandais en fait comment vous faisiez, parce que je disais en introduction tout à l'heure que la difficulté, c'est non seulement qu'on va nous toucher, mais il va falloir parler.
Ouais.
Quand il y a un refus, par exemple, qu'est-ce que vous faites?
C'est-à-dire
que vous
déjà, déjà on les repère, les femmes. Hein. Il y a des femmes qui arrivent en disant « Docteur, vous allez me disputer, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un gynécologue. » Bah, tout de suite, ça commence. Moi, je dis « Ah ouais, 10 ans, mais je me disputais avec personne. Pourquoi vous avez mis 10 ans ?» Et en fait, elles se mettent à table. Elles disent « Parce que tonton, mon frère, mon père, je sais pas quoi. Parce que j'ai eu un accouchement, une sage-femme, un gynéco, hein, je sais pas quoi. » Mais c'est quasi systématique, il y a eu du trauma. Les dames qui ont un très grand délai entre deux consultations de plusieurs années, c'est quasi systématique, c'est des problématiques de trauma. Après, vous avez des femmes qui arrivent en disant « Écoutez, docteur, moi j'ai un problème, je ne peux pas supporter de venir là. J'ai très très peur, j'ai très très mal. Je sais pas ce que vous allez pouvoir faire avec moi. » Avant, la Amina d'avant, elle disait, bah alors je comprends même pas pourquoi vous avez pris rendez-vous, madame, levez-vous et en allez-vous. Et là maintenant, je dis non, mais déjà on commence, je ne vous examinerai pas aujourd'hui, d'accord?
Sûr, vous n'étiez pas aussi méchante.
J'étais pas loin quand même. Je le disais avec beaucoup de gentillesse, mais c'était en gros ça qu'il fallait.
En tout cas, vous disiez à vos internes, 3 minutes pas plus, les
trois
amis,
minutes
sinon,
pas plus, bah oui, on avait trop de patients à voir. Et donc, maintenant, les femmes, je commence par leur dire, je ne vais pas vous examiner. Donc, vous restez bien tranquille, ne commencez pas à vous angoisser, concentrons-nous sur ce que vous avez à me dire. Moi, j'écoute que j'entends ce que vous avez à me dire et on tient compte de ça pour la suite. Ça a été incroyable, cette pandémie Covid. Je me suis mise à faire des téléconsultations. Donc, j'étais la risée de beaucoup de mes collègues qui disaient « Comment tu fais des TV à travers les écrans ?» Mais en fait, les gars, on n'a pas besoin de faire des touchés vaginaux à longueur de journée. Ce qui était hyper intéressant et très palpable, c'est que les femmes qui étaient chez elles, qui avaient donc la certitude qu'il n'y aurait pas d'effraction dans leur intimité physique, mais c'était incroyable ce qu'elles pouvaient nous raconter. C'était ça a été très marquant pour moi, cette question à quel point on terrorise les femmes. Donc moi, j'ai beaucoup de femmes. De toute façon, je le vois aussi en consulte. Ça dépend comment elles s'installent dans la salle d'attente, comment elles arrivent, comment elles sont à reculons, pas tranquilles et tout ça. Je leur dis là, bon, je vais pas vous examiner aujourd'hui, j'ai pas besoin de vous examiner. Est-ce que vous avez besoin que je vous examine? Est-ce que voilà. Et je tourne comme ça autour du pot. Après, l'autre chose, c'est que les patientes qui ont subi des violences sexuelles ont beaucoup plus de pathologies gynécologiques que les autres. Donc, les femmes qui commencent à me raconter leurs antécédents et qui deviennent à être toutes seules des encyclopédies médicales, tout de suite, je leur propose cette question. Elles en sont très souvent à la fois étonnées, très soulagées et très reconnaissantes de une telle contenance. J'avoue que je ne pose plus la question à toutes les patientes parce que, encore une fois, on est probablement en effet bien au-dessus de 18% et que si je pose cette question, par définition, à tout le moins je m'occupe de la dame et de l'écouter, hein, si je lui ai demandé, et que du coup, on prend du retard sur la consulte, et que c'est extrêmement maltraitant pour les autres dames d'attendre 2 heures.
Vous avez raconté, à l'instant, Amina Yamian, que parfois, certains de vos confrères vous regardaient en rigolant, notamment, effectivement, les téléconsultations pendant le Covid. Moi, je me demandais si aujourd'hui, avec la clinique des femmes, avec les formations que vous proposez, avec ce avec quoi vous avancez, est-ce que vous avez encore beaucoup de réponses de ce genre-là, ou est-ce que de la part de vos confrères et consoeurs, et j'espère, jeunes confrères et consoeurs, de plus en plus, on vient vous chercher en disant comment je me forme.
Ouais, exactement. On voit bien que ça avance. C'est ce qu'ont dit les auditrices là tout à l'heure. On voit bien que c'est en train d'avancer, c'est en train de bouger. Et chacun, effectivement, prend conscience des façons qu'on a eues de travailler et des interrogations que ça pose. Globalement, on est dans le bon mouvement. Mais c'est pour les femmes, ça a pris beaucoup de temps et il est temps qu'on se remue massivement.
On parle de violences gynécologiques dans le téléphone sonne ce soir avec le docteur Amina Yamian qui a écrit « Prendre soin des femmes » et aussi avec vous, Virginie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ah, écoutez, en fait, c'est fou parce que d'abord ce matin, j'étais chez mon gynéco, donc vous voyez, je suis dans le bain aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on a fait cette émission, Virginie, on le savait.
Merci.
Dites-moi
merci.
Où vous allez demain.
En vérité, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais 15 ans, je suis tombée enceinte, je ne souhaitais pas garder l'enfant, hein, donc il n'y avait absolument aucun doute là-dessus. Donc ma mère, un peu en catastrophe, parce que beaucoup de gynécos refusaient de me recevoir pour que j'avorte. Ça, c'est leur droit le plus absolu. Et au dernier moment, elle m'a trouvé un gynéco dans le 16e arrondissement à Paris, je ne donnerai pas de nom, soyez rassurés, qui me reçoit en fin de journée. Et déjà, il porte, pardon, mais ça m'a tellement marquée, je trouve ça tellement irrespectueux, il porte des lunettes de soleil pour m'ausculter, pour me recevoir. Je m'assois, il m'ausculte, il commence par dire « bah c'est mignon là-dedans ». Bon, déjà, ok. Première chose. Et deuxième chose, il m'ausculte avec une telle violence que je gémis. Et au moment où je gémis, eh bien, il me dit, mais tu l'as bien cherché. Bon, première étape, deuxième étape, on se retrouve à la clinique, hein, j'ai pas trop le choix, hein, puisque c'est le seul qui accepte de m'avorter. Je fais un avortement chimique, pour ceux qui savent pas, on prend un cachet qui fait que l'œuf est expulsé du corps. Ça occasionne, on le dit rarement, mais beaucoup de souffrances physiques. C'est assez violent et il y a beaucoup de sang. Et deuxième violence, il arrive toujours avec ses lunettes de soleil, accompagné par des, pardon, je ne sais plus comment ça s'appelle, les jeunes gens qui apprennent le métier.
Des internes.
Sans me demander l'autorisation, il m'ausculte. Et là, il explique tout haut que j'ai voulu avorter, que je suis très jeune, etc. Il n'écoute pas du tout le fait que je souffre, que je lui demande d'avoir des antidouleurs. Et surtout, fait atroce, et c'est une deuxième violence, j'apprends que je suis à côté d'une femme qui, elle, vient de faire une fausse couche, qui me regarde ahurie, et évidemment, je n'en veux pas, mais qui me fusille du regard. Du coup, j'ai passé le reste de la journée dans l'hôpital, dans la petite salle de bain, avec mon gant ensanglanté dans les mains, à pleurer. Et je pense qu'aujourd'hui, je porterai plainte, parce que je ne sais pas dans quelle mesure, au bout d'un moment, il ne s'agit pas d'une violence volontaire. Et ce qui est incroyable, c'est que, vous voyez, je reviens de mon gynéco, c'est votre chute, pardon, ce matin. Et ce qui est très drôle, c'est que cette violence gynécologique, depuis je m'y suis intéressée, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Une femme de mauvaise vie » et mon gynéco l'a lu, et où je décris dans le détail ce qu'on faisait subir aux femmes il y a plus d'un siècle. Et c'est sidérant de voir à quel point les violences gynécologiques étaient décuplées. Il s'est excusé ce matin auprès de moi en disant « Écoutez, je sais ce que vous avez vécu et je m'excuse pour ce que j'ai pu faire et ce que pour d'autres ont pu faire. Je précise que ce n'est pas le même gynécologue qui m'a suivi. »
J'imagine bien, oui, j'imagine que celui aux lunettes de soleil, vous l'avez laissé, c'est Ereban. Merci Virginie, merci vraiment pour ce témoignage. Amina Yamian, vous avez eu cette tentation, vous aussi, de vous excuser parfois, d'aller les patientes les usagères de votre première vie de gynéco en leur disant « je suis désolée ».
Et puis même encore aujourd'hui, j'ai beau faire de mon mieux, je sais que parfois je fais des trucs qui sont moyens pour les femmes, et parce que j'ai pas bien perçu, mais en même temps, il n'y a que ceux qui travaillent pas qui s'exposent pas au problème. Donc faire ce métier, c'est s'exposer au risque, effectivement, d'être mal perçu.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de moins en moins de jeunes médecins qui veulent être gynéco, vous croyez? C'est parce que c'est plus compliqué.
Il y a ça, c'est un métier qui est quand même extrêmement prenant, hein. Les femmes n'accouchent pas aux heures bureau, donc quand on s'engage dans ce métier, on sait que on sera de garde 24 heures sur 24, pas à soi tout seul, mais il y a toujours un d'entre nous qui est de garde. C'est extrêmement exigeant. C'est un métier où il y a quand même, quoi qu'on en dise, même si on fantasme sur l'heureux événement, il y a de la casse. Il y a des dames qui vont pas bien, il y a des dames qui filent en réa, il y a des bébés qui meurent, il y a même des dames qui meurent. C'est un métier qui est dur. Il y a plus de morts dans les maternités que dans un certain nombre d'hôpitaux généraux. J'étais à Necker, on faisait une interruption médicale de la grossesse par jour dans cet établissement. Et puis, on bénéficie d'un avis venant du Canada autour de la question des soins palliatifs. Et en fait, c'est ce jour-là que je prends la mesure de ça, comment c'est banalisé chez nous. Ces Canadiens, ils arrivent, ils disent « En fait, le service de l'hôpital Necker où il y a le plus grand nombre de morts à l'année, c'est la maternité. » Et moi, j'hallucine en fait, parce que je suis pas en train de me dire c'est des nombres de morts. On est en train de faire des interruptions de grossesse. Mais oui, pour les gens, si on travaille en matière de soins palliatifs, de contenance, de deuil, d'accompagnement de la souffrance, évidemment que c'est chez nous que ça castagne le plus. Et donc, il faut arrêter avec ce fantasme de l'heureux événement. Et donc, c'est un métier qui est très dur, qui est très exigeant. Il y a des procès à la clé. Plus on travaillera mal, Virginie vient de le dire, ce qui m'est arrivé quand j'avais 15 ans, ça m'arriverait aujourd'hui, je porterai plainte. Donc, gare à ceux qui veulent continuer de travailler comme autrefois et qui n'entendent pas bouger, ils vont se retrouver dans les tribunaux et ils vont se retrouver condamnés.
Il y a, dans le témoignage de Virginie, elle parlait de sa voisine de lit qui avait fait une fausse couche. Vous parlez dans votre bouquin assez longuement du tabou de la fausse couche, en fait. Et sur l'appli, on a cette auditrice qui a vécu exactement ça, en fait. Première grossesse, fausse couche, presque à 3 mois. Et la gynéco en chef m'a dit, ça arrive à une femme sur deux. Donc c'est pas grave, voilà, en fait. Ouais. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne dit plus, rassurez-moi, Amina Yamian.
Oh, ouais, pff, c'est pas grave. En tout cas, j'espère qu'on ne dit plus, je sais
c'est
pas.
C'est le début, t'en feras un autre d'enfant,
oui, voilà,
fermez les guillemets.
Ça, c'est ça. Alors que toute la physiologie démontre que c'est pas du tout comme ça que ça marche dans le cerveau des gens, en fait. Dès qu'on est enceinte, on est déjà dans un positionnement maternant, hein, sur le plan psychique, mm-hmm. et donc faire un arrêt, subir un arrêt de grossesse, c'est quelque part perdre son petit, et que pour certaines femmes, ça peut être d'une violence redoutable. Et alors, effectivement, imaginez qu'on va les aider à passer le cap en banalisant l'affaire au motif que c'est fréquent, parce qu'effectivement, la sélection naturelle dans le règne humain, elle est sévère. C'est faire complètement fausse route, en fait.
Aujourd'hui même, Amina Yamian, il y a l'obtention d'un congé de 2 jours pour fausse couche en début de grossesse. Alors, c'est que pour les fonctionnaires fédéraux, c'est en Belgique que ça se passe, je ne voudrais pas dire de bêtises. 2 jours pour fausse couche.
Oui. Ben, je pense que c'est en effet reconnaître que, Virginie l'a dit, ça fait mal l'expulsion d'une grossesse, y compris d'une grossesse ouais. arrêtée. Ça fait saigner beaucoup, ça plonge dans un très grand désarroi. Quand on a en plus été, comme Virginie, confrontée à la culpabilisation, on se demande après tout, en effet, qu'est-ce qui arrive. Et on peut être franchement bouleversé. Et effectivement, c'est pas mal de prescrire des arrêts de travail pour les arrêts de grossesse. Mais il n'y a pas si longtemps, un syndicat bien connu des gynécologues avait préconisé que les femmes qui veulent faire des IVG médicamenteuses à domicile les fassent pendant le week-end, que nous n'aurions pas eu à signer des arrêts de travail. Mais on est en plein délire, en fait, là.
Margot, bonsoir.
Bonsoir.
Il nous reste très peu de temps, Margot, pardon, mais on vous écoute.
Très rapidement, alors moi, je n'avais pas été victime de choses aussi graves que les autres auditrices, mais pour parler aussi des violences psychologiques qu'il peut y avoir suite à des consultations gynécologiques, moi, très très jeune, j'ai été victime de vaginisme, j'ai eu mal au moment des rapports sexuels et ma gynécologue m'a expliqué que c'était probablement psychologique et que de toute façon, c'était souvent le cas chez les jeunes filles qui avaient des bonnes notes comme moi. Et j'ai mis 4 ans d'errance médicale avant d'être diagnostiquée, donc ça fait 4 ans de souffrance au moment des rapports sexuels, donc des vraies conséquences sur toute ma vie. C'est une gynécologue qui a mis 15 ans aussi à me diagnostiquer mon endométriose et en mettant entre-temps des stérilets en cuivre, ce qui n'est pas recommandé. Donc c'est pour parler en fait de l'impact, voilà, en termes de violence psychologique aussi, alors que moi j'ai pas eu du tout de violence physique. Voilà.
Mmh. Merci vraiment Margot pour votre témoignage. On le retient, le témoignage de Margot, Amina Yamian.
Ben ouais, ça a des conséquences psychiques qui peuvent être extrêmement graves.
En une demi-seconde, pardon, il paraît que vous avez un siège très particulier, vous, dans votre cabinet. Non, mais sérieusement, on n'est pas obligé de grimper sur un tabouret pour aller jusqu'aux étriers.
Non. On s'assoit sur une chaise et puis elle est électrifiée et on bascule en arrière. Et les femmes ont un peignoir, comme ça, elles ne sont jamais toutes nues.
Eh bien, je ne savais même pas que ça existait.
C'est pas mal, hein, ouais.
Ben oui, c'est bien.
Ouais, ouais.
Merci beaucoup, merci vraiment d'être passé chez nous au téléphone. Je vais rappeler votre livre, Amina Yamian. Votre livre s'appelle « Prendre soin des femmes pour en finir avec les violences gynécologiques » et c'est publié chez Flammarion. Merci vraiment encore.